Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui êtes ici à Nyon. Bonjour à vous qui êtes derrière votre écran à la maison. Je suis David Rosset, je suis un des pasteurs de cette communauté. Et effectivement, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 14 février. Et le 14 février, c'est la fête de l'amour. Alors j'ai intitulé cette prédication « Je t'aime ». Et les chrétiens et les Saint-Valentin, qu'est-ce qu'ils ont à dire de particulier sur cette fête? Effectivement, comme Marie l'a dit, c'est l'amour romantique dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai changé l'arrière-plan de mon PowerPoint. J'ai mis un rouge, comme ça, le plus brûlant possible, le plus fort possible, le plus intense possible. Car le rouge, c'est la passion amoureuse. Le rouge, c'est soyeux, c'est beau, c'est fort. Ça éveille tout cet imaginaire-là. Et qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est aussi la Saint-Valentin, des images qu'on se fait comme ça, par exemple celle d'un coucher de soleil, peut-être c'est là, ce moment-là que vous avez tenu pour la première fois la main de l'être aimé sur une plage au bord de l'Atlantique, avec une musique dans vos oreilles, ou pas. Ou alors peut-être même vous avez-vous dessiné le nom de l'amoureux sur vos murs de chambre. Ou sur les murs des autoroutes ou des préaux d'école, je ne sais pas. L'amour, finalement, ça s'exprime, et pour moi, la Saint-Valentin, c'est un peu tout cet imaginaire-là, dans lequel on baigne, puis que c'est un univers, finalement, qui a été construit. Hein. On s'est rendu compte, avec la petite histoire de Marie, que c'est une évolution, la manière dont on dit notre amour à l'autre, à l'être aimé. Et c'est ça que nous trouvons aussi, aux surprises, dans la parole. Car il y a un livre qui nous parle uniquement de cet amour-là, qui se trouve dans l'Ancien Testament, et c'est sur ce livre que je vais méditer ce matin. Alors c'est une première pour moi de prêcher sur le Cantique des Cantiques, c'est comme ça qu'il s'appelle, en dehors d'un mariage. Parce que d'habitude, il y a des textes qui sont réservés uniquement pour les mariages. Celui-là, il en fait partie, donc c'est la première fois, je m'y lance ce matin, de le faire dans un contexte autre que le mariage. Alors j'ai pris des extraits de ce Cantique des Cantiques que je vais vous partager ce matin. Le plus beau de tous les chants. Elle et lui, de Salomon, pardon, elle et lui. Le dialogue des amoureux. Des baisers à pleine bouche. Tes caresses m'enivrent plus que le vin. Et lui de lui répondre, que tu es belle, ma tendre amie. Que tu es belle, tes yeux ont le charme des colombes. Toi aussi, elle de lui répondre, mon bien-aimé, tu es beau. Tu es magnifique. Notre lit, c'est la verdure. Les branches des cèdres forment les poutres de notre maison. Les cyprès en sont les cloisons. C'est avec ces mots que commence ce livre qui, je vous le rappelle, a été retenu dans le canon biblique. Si on vous disait juste, est-ce que ces premières paroles, des baisers à pleine bouche, se trouve dans la Bible, maintenant pour répondre, oui, ça s'y trouve, je vous le confirme, le pasteur me l'a dit dimanche matin, 14 février, et ça s'y trouve pas seulement le 14 février, ça s'y trouve à longueur d'année. C'est étonnant. Et c'est étonnant aussi que ce livre s'appelle pas vraiment le Cantique des Cantiques, parce qu'on en a fait quelque chose un peu de particulier, parce que Cantique des Cantiques, est-ce que ça parle aux amoureux? Si votre amoureux vous dit, je vais te dire le cantique des cantiques, ça fait tout de suite un peu solennel, religieux, on a l'impression d'être sur un banc d'église. Le nom qui correspondrait le mieux à la traduction de la langue originale, qui est l'hébreu, c'est le plus beau de tous les chants. Comme si on offrait à l'autre ce qu'on avait de meilleur au fond de nous. Le plus beau de tous les chants. Ça claque un peu mieux que le cantique des cantiques. C'est assez intéressant qu'on fasse ces distinctions-là, parce que là, on a l'idée d'un chant qui est gai, d'un chant qui est triomphant, d'un chant d'amour, un chant même qui est bruyant, c'est-à-dire qui s'exprime. Ce n'est pas une complainte, une lamentation ou un cantique solennel. Et dès le début, il y a cette affirmation forte dans ce livre que l'amour est quelque chose de débordant, que l'amour est quelque chose de joyeux, que l'amour est quelque chose qui apporte quelque chose de beau à l'autre. Et cette aspiration à aimer l'être cher, à lui communiquer son amour, est inscrite, je le crois, au plus profond de l'être humain, qu'il soit en couple ou qu'il ne soit pas en couple. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux que j'aimerais vous transmettre ce matin. C'est cette aspiration-là, elle n'est pas réservée à ce qu'on appelle les amoureux. Elle fait partie de nous en tant qu'être humain, ce besoin d'exprimer l'amour, ce besoin d'exprimer ce qu'on a au fond de nous, de nos cœurs, de nos entrailles, pour pouvoir le sortir et l'offrir à l'autre, que l'on soit en couple ou non. Il est donc légitime d'avoir de telles aspirations, de telles envies, de tels désirs, quelle que soit notre situation conjugale. Et tout un livre de la Bible nous en parle. Et cela implique pour moi deux éléments importants. C'est que la présence de ce livre de la parole révélée met en évidence ce besoin profond de l'être humain d'exprimer son amour à l'autre, de le faire sortir, de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir lui dire qu'il l'aime finalement. Et un autre élément qui lui est lié, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Bible ne voit pas d'un mauvais œil ces aspirations-là. La Bible les met en évidence, la Bible en parle et réserve une place toute particulière à ce plus beau des chants dans l'Ancien Testament. Il est fort probable que l'attribution à Salomon ait aidé à la mise en conformité, à la mise en route dans le canon biblique. Salomon, en fait, jouissait d'une grande aura, et puis le fait qu'il ait été attribué à Salomon, et composé par Salomon, lui donne un certain pédigré, ça lui donne une certaine consistance. Et pourtant, dans ce livre, il n'y a aucune mention de Dieu. Il est question de sexualité, de manière assez explicite, comme étant une belle et bonne chose, dénuée d'interdits, et une sexualité qui peut laisser libre cours à sa passion amoureuse dans le cadre d'un couple. Et même à un niveau légal ou religieux, tout ce qu'on pourrait croire avec notre longue histoire, rien n'est là dans ce livre pour réfréner la passion des amoureux et des amants l'un envers l'autre. Au contraire, les freins viennent plutôt dans ce livre des circonstances. On ne peut pas se voir parce qu'on est à distance, on ne peut pas se voir parce que les familles nous en empêchent, on ne peut pas se voir parce qu'on n'habite pas au même endroit. Et du coup, on doit s'écrire des lettres, on doit s'écrire des poèmes l'un envers l'autre. Et cette sexualité, cet érotisme se vit avec l'autre, une femme respectivement un homme, dans le cadre d'un jardin, un jardin intime, fermé, et dans ce cadre-là, tous les sens sont en éveil. Et cette place dans le canon, si on y réfléchit bien, elle est tout à fait logique. Parce que cet amour, il est considéré comme étant fécond. Notre lit, c'est la verdure, les branches des cèdres forment les poutres de notre maison, les cyprès en sont les cloisons. Il y a cette idée, clairement, d'être à l'origine, au cœur finalement, si vous me passez l'expression, de quelque chose de fécond, de beau, de quelque chose qui va construire et permettre tout simplement la vie. Et c'est pas rien. Il y a l'image de la verdure, il y a l'image du jardin. On a un peu de la peine parce qu'on est décalé avec toutes ces images. Peut-être que vous n'avez jamais dit à l'autre qu'il était pour vous une colombe ou bien une biche qui dévale les plaines du Mont Galade ou bien ce genre de choses. On en a eu même un petit exemple dans les chants tout à l'heure avec l'image des veaux qui courent en sortant de l'écurie. C'est plus ou moins en phase avec ce qu'on a envie de dire à l'autre. Mais toujours est-il que cet élan, il est bien là. Et cet élan, il est vraiment à exprimer pour l'autre. Et là, on touche quelque chose d'assez important. Quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez dit à votre mari ou à votre femme, « je t'aime » ? Ou peut-être plus compliqué, quand est-ce que, pour la dernière fois, vous lui avez dit que vous la trouviez beau ou que vous la trouviez belle ? Je vous laisse réfléchir. Et si jamais ça fait longtemps, vous pouvez y aller aujourd'hui. Hein, ce n'est pas interdit comme ça. Il n'y a pas que les fleurs, comme ça vous êtes quitte de l'acheter. Et effectivement, il y a quelque chose de gratuit dans le fait d'exprimer l'amour à l'autre. Quelque chose de gratuit, mais finalement qui nous coûte parce qu'on parle de nous. Hein. On parle de nous, on doit aller chercher un peu, puis je vois plein de sourires qui s'échangent de la salle. On doit aller chercher un peu au fond de nos tripes, on ne peut pas simplement prendre quelque chose et l'apporter au niveau matériel. Le matériel, c'est pas mal, mais c'est toujours un peu la voie de la facilité pour moi, dans le sens où on met comme quelque chose entre deux. Ce qui s'exprime, et tout le Cantique des Cantiques, tous les chapitres du Cantique des Cantiques de ce plus beau des chants le disent, ça vient vraiment de l'être profond des amoureux. Ça vient vraiment de l'être profond de l'être humain qui ose poser des mots sur ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent par rapport à l'autre. Et ça, ça coûte bien plus qu'un bouquet de roses. Ça coûte bien plus qu'un cadeau qu'on peut offrir. Et cette expression, je la trouve très belle parce qu'elle permet aussi d'inclure une part d'imaginaire. Avec ce plus beau des chants du Cantique, on n'est pas dans quelque chose qui serait la description exacte de ce que c'est l'amour. On n'est pas en train d'être comme on a trop l'habitude actuellement avec toutes les émissions télé-réalité, d'être un peu un œil voyeur comme ça qui se met au cœur du couple qui est présent là et qui nous est présenté pour regarder ce qui s'y passe de manière très précise. On n'est pas là par effraction. On est vraiment dans un monde où cette expression amoureuse nous ouvre à d'autres réalités. Parce que la majorité des dialogues, ce n'est même pas exactement ce qui se vit, c'est ce que les amoureux espèrent vivre. Parce que la plupart du temps, ils sont séparés et ils expriment une forme d'idéal de ce qu'ils aimeraient vivre. Et ce n'est pas conçu négativement par la parole. C'est même conçu très positivement. Parce qu'on se dit qu'il y a une manière d'aller au-delà, il y a une manière de dire quelque chose qui nous échappe et qui nous pousse en avant pour la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que, si on y réfléchit bien, il y a des hauts, des bas, il y a des côtés plus ou moins réjouissants dans la vie de couple, ça dépend des périodes, ça dépend des moments, ça dépend de notre état intérieur, si on est plus ou moins énervé ou bien pas, il y a mille choses qui s'y passent, et de pouvoir se rassembler, comme le font ces amoureux-là, et de se dire, je vais aller au-delà du purement réel, du pur terre-à-terre, mais je vais me laisser porter par cet élan amoureux. Il y a des envies et des contraintes, des retrouvailles, de nombreuses séparations, des élans et des limites, et sur tous ces éléments-là, le plus beau des chants qu'est ce Cantique des Cantiques nous donne des mots pour l'exprimer. Et je trouve ça magnifique. Et là encore, cet imaginaire, il n'est pas disqualifié par la parole, mais il est valorisé par la parole. Et je pense que ça nous donne une belle piste d'action pour nous. Marie nous a encouragé peut-être à écrire des lettres. Écrire les lettres, c'est oser poser des mots sur les sentiments d'affection qu'on a les uns pour les autres. Puis je vous raconter une petite anecdote très personnelle sur cette idée de mettre des mots là-dessus. Alors, mon épouse est très, très craintive pour ces quelques minutes qui vont suivre, mais ce sera très beau, vous verrez. Par rapport au fait de mettre des mots, on a écrit des cartes à la fin de l'année pour nos familles et nos amis proches. Et puis, d'habitude, on met « bonne année » ou « que Dieu nous bénisse », si on est aussi un peu spirituel, « vous bénisse aussi ». Et puis, on y va comme ça. Puis, elle a eu la bonne idée de rajouter « on vous aime ». Peut-être je vais vous choquer, mais moi, j'étais assez mal à l'aise pendant plusieurs jours d'oser envoyer une carte où simplement, à la fin, c'était écrit « on vous aime ». Pourtant, c'est simple, hein, c'est trois mots. Je n'ai pas pris un grand risque, je n'allais pas me faire taper dessus, je n'allais pas être mis au pilori parce que j'ai écrit ça à quelqu'un d'autre. Et pourtant, j'avais une forme de malaise, me dire « est-ce que ça va être bien reçu ?» Parce que finalement, en prononçant ces trois petits mots, on exprime quelque chose de qui on est, on exprime quelque chose qui nous touche et qui nous tient à cœur. Oser exprimer notre amour, je pense que c'est beau, je pense que c'est fécond, je pense que c'est une réalité à chérir, donc à exprimer. Un peu plus loin, on trouve cet élément-là. Tu es mon jardin privé, ma sœur, ma fiancée, ma source personnelle, ma fontaine réservée. Tes formes élancées sont un verger de paradis planté de grenadiers aux fruits exquis. Il embaume les parfums du henné et du nard et du safran, du laurier et de la cannelle avec ceux de tous les bois odorants. Et aussi les senteurs de la myrrhe et d'aloès avec celles des baumes les plus fins. Le jardin a une source, une fontaine d'eau vive qui ruisselle du Liban. Et elle de lui répondre, « Réveille-toi, vent du nord, viens, vent du midi, répands les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon bien-aimé, entre dans ton jardin pour en manger les fruits exquis. » Et lui répondre, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. » Et les amis, cet acteur extérieur, « Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous de caresses. » Moi, ça m'hallucine à quel point, dans le monde chrétien, on est arrivé à des centaines de kilomètres de ce type d'expression. J'ai souvent fait le test de mettre des phrases comme ça du Cantique des Cantiques et puis de demander aux personnes qui composaient le petit groupe dans le cadre d'animation, savoir si ça pouvait être dans la Bible ou pas. Alors certains étaient un peu au courant, puis ils se méfiaient du truc, donc ils disaient « oui, oui, ça doit l'être ». Mais la grande majorité, impossible d'imaginer que ça puisse être de la Bible. « Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous de caresses. » Allez-y, je vous laisse, je vous bénis, je vais finir la prédication de cette manière-là. C'est fort, hein ? Et là, on est obligé de déconstruire, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'Église, mais depuis Saint-Augustin quand même, depuis du 4e siècle, on est au 21e siècle, 21-4, 17 siècles, 1700 ans. Ça fait 1700 ans qu'on est dans une autre logique où on a appris à se méfier de ces éléments-là. Où finalement, les aspects de cadre réglementaire et de cadre dans lequel se vivent ces éléments d'élan amoureux, ce cadre a clairement, ça je pense qu'on est tous d'accord sur l'analyse, été mis au premier niveau. Et ces éléments positifs voulus par Dieu, de fécondité, d'expression de l'amour, ont été relogués, c'est même plus le podium, là, on est aux dernières places de je ne sais pas tout quoi. Ça ne veut pas dire que le cadre est disqualifié, mais c'est-à-dire que ce cadre légal, il a pris énormément de place et on en a oublié ce projet de Dieu pour le couple qui est essentiel. Et moi, ce matin, j'ai simplement envie de vous laisser cette envie renouvelée, parce que si on veut une société qui marche, si on veut une église qui marche, on a besoin de couples qui marchent. On a besoin de couples qui sont animés par cet amour l'un envers l'autre. Et c'est un élément dont je nous invite à prendre soin. À prendre soin et à oser exprimer ces éléments-là. Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous de caresses. Il y a quelque chose de beau dans cet élan-là. Et cet élan-là, effectivement, dans le même temps, il se vit dans ce jardin secret. Ce jardin secret, c'est clairement un couple entre un homme et une femme. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là dans la parole. C'est un jardin secret qui permet trois choses. Et pour moi, elles sont d'une actualité impressionnante, ces trois choses. Elles permettent... Premièrement, l'intimité. L'intimité, elle ne se partage pas avec 46 000 personnes. L'intimité, elle se partage avec un très petit nombre de personnes. Dans le cadre du couple, elle se partage avec même une seule personne. Et dans ce cadre-là, il y a la confiance nécessaire, il y a le lien nécessaire pour vivre ce qui est au plus profond de nous. Et cette intimité, elle permet le respect et elle permet, dans ce cadre-là, la liberté. Je suis frappé à quel point cette dernière année a été marquée par des mouvements qui touchent clairement à cette problématique-là, du non-respect de ce jardin secret. Et peut-être ça nous concerne aussi dans nos couples, dans nos vies, et c'est des situations qu'en tant qu'Église, on est appelé à accompagner et à faire évoluer. et certainement à guérir suivant ce qui s'est passé. La parole nous donne une direction qui est absolument claire, c'est que pour pouvoir vivre pleinement le plan de Dieu, c'est dans ce cadre-là que ça doit se vivre, et pas dans un autre cadre. Et ces mouvements, que ce soit MeToo ou même maintenant ce qui sort avec ces histoires terribles d'inceste, même au sein des familles, c'est clairement une violation de cet espace secret. C'est clairement une violation que l'on doit dénoncer et que la parole dans plein d'autres textes nous appelle à mettre en lumière. Et là, j'ai envie de dire, si ça devait être le cas pour des personnes, en tant qu'Église, on est aussi là pour accompagner, ou bien d'autres personnes en dehors de l'Église. Il y a notamment un réseau qui s'appelle FERACPA, qui s'occupe précisément de ces éléments-là. On a besoin de les débusquer, parce que ce n'est pas le plan de Dieu si vous avez été victime de cela. Ce n'est pas le plan de Dieu que ce jardin secret ait été violé par quelqu'un d'autre. C'est un espace de respect, d'intimité et de liberté. On descend un peu dans la profondeur des choses, là. Je suis assez conscient que je suis en train de descendre, mais c'est important aussi de pouvoir mettre des mots sur une réalité qui est beaucoup plus large qu'on ne le croit et qui, heureusement, est en train d'être mise en lumière ces dernières années, ces derniers mois. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si nous voulons vivre pleinement ce que Dieu nous appelle à vivre, on doit respecter cette image du jardin secret. Je vais finir sur cette phrase parce qu'elle m'interpelle. Pour nous laisser aujourd'hui cette réalité, si on est en couple, mais aussi de légitimer ce besoin qui fait partie de nous, suivant si on est célibataire, veuf ou séparé. Cette légitimité de cet élan-là et peut-être ce désir d'aller aussi dans une forme de réalisation de cet élan-là. C'est légitime et c'est beau. Ce n'est pas un interdit. Alors que le Seigneur nous donne ces moments, c'est ma prière, qu'il nous donne de les vivre dans ce cadre protégé et en sa présence, c'est ma prière pour nous. Et je crois que, à travers ces quelques passages du cantique, ce plus beau des chants, on se rend compte que les chrétiens, ils ont vraiment quelque chose à dire sur la Saint-Valentin. Peut-être pas dans le sens que l'on aurait imaginé. Bon dimanche de Saint-Valentin à toutes et tous.